Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Accab, séquelles, de Pierre Sange. Apparaître aux éditions Verticales.
J'ai choisi Les aventures de Simplicissimus de Grimmelshausen. Il se manifeste en cette époque, dont on croit qu'elle est la dernière, parmi les gens de peu comme une peste, dans laquelle les patients qui en sont malades, ayant ramassé et, par trafic, tant recueilli, qu'à côté de quelques liards en poche, ils peuvent s'affubler d'un habit de bouffon à la mode nouvelle, avec mille sortes de rubans de soie, ou bien devenus par chance adultes, inutiles et notables, veulent s'égaler aux messieurs chevaleresques et personnes nobles de race antique, alors que souvent ils se trouvent, et après un examen approfondi, rien d'autre n'apparaît sinon que leurs grands-parents étaient ramoneurs, journaliers, tire-brouettes ou faquins, leurs cousins âniers, joueurs de bonneteau, acrobates et danseurs de cordes, leurs frères argousins ou estafiers, leurs sœurs couturières, blanchisseuses, marchandes de balais ou tout simplement putains, leurs mères maquerelles ou même sorcières et kinsuma, toute leur race, en remontant 32 quartiers, a été aussi souillée et maculée que jamais put l'être la clique jurée du Zuckerbastel de Prague. Oui, eux, ces nouveaux gentillâtres, sont souvent eux-mêmes aussi noirs que s'ils étaient nés et élevés en Guinée. C'est donc les aventures de Simplicissimus de Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, traduit par Jean Hamsler. L'écriture de chaque livre et la lecture de chaque livre est une expérience différente, pose des problèmes différents, demande des solutions différentes. La plupart du temps, un auteur se fabrique parfois un système ou un style qui est bien souvent une façon d'éviter ses propres incapacités, d'éviter ses propres obstacles ou de faire avec ses propres handicaps. Par exemple, le cas de Borges qui rêvait peut-être d'écrire un roman fleuve, mais en était incapable, et a inventé ce système qui consiste à supposer l'existence d'un roman fleuve et à le commenter comme un article critique, finalement. Voilà, c'était une belle façon un peu de surmonter ces blocages personnels. Donc je crois que chaque livre, chaque thème vous emporte ailleurs et vous dicte ses propres exigences et vous pose des problèmes qui n'existaient pas avant et qui n'existeront plus après, il me semble.
Nous allons écouter les toutes premières pages de votre nouveau roman Achab Sekel, ça pourrait être un incipit en lui-même comme une première phrase de roman qui paraît aux éditions Verticales.
Acharnement et clapotis, le naufrage selon les rescapés. Moby Dick, vous connaissez ? La baleine blanche, les clapotis, le monstre apparu, disparu, éclaboussant chaque fois qu'il se cache. D'ailleurs, toute cette histoire de chasse terminée par un drame, ça vous rappelle quelque chose ? Les personnages, les figurants, les accessoires, les clous forgés et les clous découpés. Et le décor ? L'inévitable décor d'océan se donnant comme panorama et comme infini contenant. 1 000 000 000, un petit peu plus, de kilomètres cubes d'eau salée mêlée de chair humaine et de poisson en proportion inégale, et là-dedans des harengs frais, des requins marteaux, des baleines à nez de bouteille et des marsouins hurrahs, des baleines à tête d'enclume, des poissons clowns, des poissons chats, des hippocampes comparés quelque part à des allumeurs de réverbères, des belugas, des huîtres perlières, d'autres qui ne le sont pas, ne le seront jamais, et se sont fait une raison, des baudroies, des encornés, le reste de la croisade de 1212, les théières de vermeil destinées au roi Charles d'Angleterre, coulées en 1633 entre Burnt Island et Leith, théières suivies dans l'ordre à travers un fond trouble de pianos droits, de lingots d'or, ou plus sûrement de pioches de chercheurs d'or bredouille, de pantoufles et de chemises de nuit, extraits de naissance, avis de décès, jeux d'échecs, grille-pain, porte-tambour, brosse à reluire, jetons de téléphone, bible traduite en 120 langues, Grand Albert et Petit Albert, livre de bonne manière, banjo, trompette, harmonica, fausse couronne du roi Richard III, casquette de marin, fraise élisabéthaine, page brûlée de Nicolas Gogol, buste de Tibère, cafetière italienne et cafetière américaine, un catalogue systématique des mammifères marins, des partitions de Jérôme Kern, un livret d'Oscar Hammerstein, un gramophone, un Beta Splendens, un parmi des milliers, un clistère, le pendentif de Rita Flowers, le diadème du Toboso, une trousse de toilette ayant appartenu à Joseph von Sternberg, un autre à Eric von Stroheim, l'épave complète du Chancewell, les images perdues de A Woman of the Sea, les espadons manqués par Hemingway, les habits démodés du Signor da Ponte, l'épave du bateau d'Abyssai Hidden, tous les ingrédients du cocktail Manhattan, hélas trop éloignés les uns des autres, des téléviseurs, des machines à laver, un petit traité sur l'immortalité qui n'a pas dû convaincre grand monde, la pique d'un violoncelle et X couronnes de fleurs en hommage aux marins noyés. Ceux qui prétendent s'être embarqués sur le Pequod et l'avoir suivi vaillamment jusqu'au naufrage, les survivants, rescapés en plein océan, comparés quelque part à des brins de persil dans du bouillon de poule, ceux qui ont réussi, faute de mieux, à s'embarquer sur le livre, parfois clandestinement, sans payer, sans recevoir aucun salaire, tous ceux-là veulent raconter l'histoire, tant pis si c'est pour la 36e fois, en oubliant l'essentiel, en rapportant des détails inutiles récupérés au hasard. Sauvés de la noyade à la dernière minute parce que, sur le moment, ils les avaient trouvés précieux. Quand on le leur demande, même 50 ans après les faits, ils ne se font pas beaucoup prier. Deux vers suffisent, ils délivrent leurs morceaux de Moby Dick, les voiles, l'obsession du capitaine, la poursuite d'un seul gros poisson, une obsession assommante pour tout le monde, pire encore que la pâmoison de l'amoureux fou. Ils racontent les kilomètres parcourus du détroit de Matsmai à Cape Tormentoso, 6 ou 7 fois le tour du globe, les grands épisodes oratoires, les tirades du capitaine. Il en reste quelques syllabes. Et à la fin du dernier jour de chasse, le combat absurde d'un petit homme passe lassé contre l'immense baudruche de baleine. Ils disent encore comment ils l'ont vu mourir, comment ils sont morts avec lui. Honneur aux engloutis. Leurs témoignages prennent fin à cet endroit sur l'idée de mort collective, sur les mots de cimetière marin, quand leur public renonce à les croire sur parole. Parmi ces rescapés raconteurs, étonnamment nombreux même s'ils sont dispersés dans des bars à 20 très espacés les uns des autres et rares, certains sont plus crédibles que d'autres. Tous rapportent une histoire de deuxième ou de troisième main. Quelques-uns ont cet air d'apôtre aux yeux brillants qui a serré un jour la main de Dieu grimée en homme et ne s'en est jamais remis. La vérité sur l'issue d'un combat. Il a fallu se défaire de son harpon et de son câble. Selon la version la plus répandue, le vieux capitaine a plongé avec la baleine jusqu'au fond. Il a éprouvé la noyade pendant qu'elle interprétait son agonie de cétacé, autrement dit, une agonie interminable. L'écume, les milliers de tonnes et l'âme s'élevant au ciel embrassant l'eau salée. En vérité, Akab s'est presque immédiatement détaché de sa proie. Il est remonté à la surface. Les témoins auraient dû le voir réapparaître, joyeux bouchon de champagne, vainqueur, ricanant du ricatement des vilains de feuilleton quand il triomphe in extremis, immoralement. Se détacher de sa proie, la preuve de son habileté, de sa désinvolture, de sa lâcheté, d'une infidélité inexplicable après tant d'années de chasse en commun, ou bien, malgré sa réputation de capitaine maudit, la preuve de sa chance de coquin à qui la fortune, enfin, enfin, montre ses dents. Akab ne dira pas le contraire. Pendant 2 ou 3 minutes, le temps d'une chanson, il a été fixé à la baleine. Et pendant ces 3 minutes, il veut bien appeler ça portion d'éternité, il a entamé auprès d'elle une vie de couple amphibie, éphémère, ébauchant un avenir commun sous 6 pieds, sous 6 000 pieds d'eau. Elle, continentale, impérieuse, éblouissante même par grand fond, étrangère à toute forme de susceptibilité, capable au contraire de tout avaler, le navire et ses passagers. La taille d'un estomac disant tout de la capacité d'un être à amortir les coups durs de l'existence. C'est du moins l'impression du capitaine tout au long de ces 3 minutes. Pendant ce temps, il se bouche les oreilles et croit rendre son âme goutte après goutte. Il connaît la sardine, un peu l'anchois au vinaigre et certaines variétés de morue en beignet, en brandade, mais la baleine blanche, Moby Dick en personne, seulement par oui-dire, et toujours de loin. À la toute fin de sa vie de marin, le temps de la harponner, si on en croit les témoins, de se laisser harponner par elle, d'entamer le rodéo le plus rude mais le plus clownesque de l'histoire de l'Amérique océane, le temps de se noyer, il a dû s'infliger une leçon de cétologie accélérée. Mœurs, anatomie, forme, tonus musculaire, tout. À commencer par cette peau semblable à rien, comparable à rien, dans quoi il a cru voir, incrusté là depuis si longtemps, des maravédis de l'histoire, des maravédis de l'époque des rois catholiques. La baleine, en retour, quand elle saisit son capitaine, elle le regarde de près, elle le compare à ce qu'elle croyait connaître des hommes. Pendant ces 3 minutes, elle s'offre elle aussi une leçon d'anthropologie. L'anatomie, les apparences, les intentions, l'énergie du désespoir, le grotesque supporté par la poussée d'Archimède, la virilité combinée avec les impuissances, la coriacité quand même, la boucle du ceinturon et la tendresse, le ride veau du fond de son âme. 3 minutes, pas une de plus. Achab ne se voit pas faire le tour du monde accroché à Moby Dick, retenir sa respiration, respirer en urgence chaque fois qu'elle daigne rejoindre la surface, puis à nouveau se boucher le nez et se nourrir de ce qu'il trouve, des invertébrés, des délicatesses gélatineuses. Jamais, croix de bois, croix de fer, il ne sait rêver un avenir de pendentif fixé mais lâchement au flanc de la baleine pour faire joli. Il préfère la séparation. L'histoire du câble serré autour de sa poitrine est une autre légende composée après coup par ces lettrés qui ont tant besoin d'épilogues édifiants. Il s'est enroulé en vérité autour de la cheville et encore autour de la mauvaise, c'est-à-dire de la fausse. Pour regagner sa liberté, il a suffi de déboucler 2 sangles, l'attachant, lui, le capitaine, Ulysse fielleux, à sa jambe de bois. Et après sa liberté, la surface, l'air du large. Ulysse, puisqu'on en parle, pourrait lui aussi raconter à qui veut l'entendre sa propre version de l'Odyssée. Tard le soir, après des pintes, l'estomac rond, le coude dans la mousse de bière, les pieds dans la sueur, le regard, comment dire, dans le vague au-delà des pintes et de la mousse, s'efforçant de revoir sans y parvenir les paysages de son pays natal, nets si possible, et dans ces paysages des figures familières. Ulysse, pochetronné, jamais privé, miracle, de ses 1000 ruses, établirait sa version des sirènes avant de siffler ou tenter de le faire leur mélodie, do, mi bémol, sol, la bémol, si, puis d'enchaîner sur d'autres épisodes. Moins rusé, Achab a eu quand même la présence d'esprit de s'abandonner à la force d'Archimède, pateline mais toujours fidèle, va piano, va sano, jusqu'à la rive. Il y a toujours une rive quelque part pour permettre à un survivant de faire le récit du naufrage. Les hommes d'équipage auraient dû l'apercevoir, ce n'est pas si compliqué. Un malheureux à la mer, toussant, crachant, bègue, cherchant dans son répertoire une réplique déterminante, façon Marc-Antoine au cadavre de César. Les imbéciles étaient trop occupés déjà à le pleurer, le regretter ou se réjouir, prendre le deuil, baisser le pavillon, sonner la trompette aux morts et offrir à la renommée le corps englouti du capitaine. Autrement dit, faire d'Achab le croque-mitaine que tout le monde connaît à présent, pour l'éternité portraituré sur un seul pied, comme un Nicocampe, mais dans un style plus maladroit. Une main tient les 2 testaments, l'autre la saga des Atrides. Il a flotté. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Sur plusieurs lieux, en s'orientant selon le soleil, puis le soir selon Cassiopée, le serpent, le cygne, la machine pneumatique, enfin le sac de charbon. Sur le dos, la nuit, flottant toujours, histoire de s'accorder le repos du fugitif, Achab n'a rien de mieux à faire sinon contempler les étoiles et entretenir des dialogues d'Achab à Hercule ou Achab à Castor ou Achab à Petit Ours, qui tendrement, tendresse de bonne fée penchée sur le berceau de Pinocchio, on ne peut pas faire plus mièvre, lui indique le chemin du retour vers la terre ferme. Sur l'élan de son odyssée, une fois posé le pied à terre, il titube comme Sinbad, comme n'importe qui à sa place. On prend ça pour un reste d'alcool, pour le réveil douloureux le matin après l'ivrognerie. Ni le capitaine, ni Sinbad hypothétique, ni aucun autre hypothétique navigateur à leur place n'auraient l'occasion d'expliquer dans quelle mesure leur démarche d'ivrogne et le mouvement de l'épopée marine continuait sur la terre ferme. Il faudrait du temps pour les démonstrations. Un lyrisme de poète de la mer, pas toujours bienvenu. Achab a pu être emphatique parfois, dans les embruns. Il ne voudrait pas être, en plus de ça, empoulé. C'est très difficile pour moi de déterminer quand commence l'écriture d'un livre. Et c'est encore plus difficile pour moi de déterminer quand un livre peut s'appeler roman ou récit ou nouvelle ou essai ou brouillon définitif pour le tiroir. L'incipit est arrivé, comme souvent, au milieu de l'écriture. Donc l'écriture se fait plutôt au fil de la page, en cherchant des idées, en travaillant un thème, en suivant des pistes, en me laissant guider par les personnages ou par les créatures ou par les décors ou par les idées qui viennent ou qui ne viennent pas. Et petit à petit, cette écriture-là va, comme je disais tout à l'heure, un livre peut imposer ses exigences et avoir ses propres obstacles, l'écriture va guider sa propre destination. Et donc au bout d'un moment, un plan se dessine et c'est à peu près au milieu ou aux trois quarts ou aux deux tiers de l'écriture que une ouverture peut se dessiner. Et c'est à peu près aussi à ce moment-là d'ailleurs que les dernières lignes souvent s'écrivent. En tout cas pour ma part, le travail ne se fait pas dans l'ordre, le travail de l'écriture ne se fait pas dans l'ordre de la publication. Il y a un travail de montage après coup qui est presque un montage cinématographique qui suppose de déplacer des scènes, d'organiser un petit peu la succession des petits tableaux. Ce qui m'intéressait dans les premières ébauches de ce qui n'était pas encore un livre, c'est de raconter ou de faire un portrait du capitaine ou de raconter la chasse du point de vue de la baleine. C'est un jeu d'inversion qui est un exercice d'écriture assez qui peut être assez amusant. On peut imaginer, bon, il a été question d'Ulysse dans la lecture, on pourrait imaginer l'Odyssée vue du point de vue des sirènes, ou comme il en reste quelques traces dans le livre, Don Quichotte mais du point de vue des moulins. C'est un exercice d'écriture qu'on pourrait donner, ce que je n'ai jamais fait, mais je pourrais le faire, en atelier d'écriture. C'est en tout cas, pour moi, un moteur d'écriture. Et ce principe-là d'inversion concernant, en tout cas, Moby Dick et le capitaine, a été petit à petit le moteur d'une série de variations sur ce thème-là qui est devenu, là encore, c'est le texte qui a dicté sa forme, une sorte de suite, une séquelle à Moby Dick. Ce n'était pas forcément prévu d'avance.
Quelle pourrait être la bande originale d'un roman comme celui-là qui va du capitaine Ahab à Billy Wilder?
Alors, si on prend un petit peu le milieu entre 1851, l'écriture par Melville et les années 50 de Billy Wilder, en tout cas de cette période-là, on pourrait imaginer une musique plus proche de la comédie musicale de Broadway. Ça pourrait être ça. Alors, c'est pas nécessairement la musique que vous m'avez demandé, que je vous ai proposée, mais la musique que je vous ai proposée de Thomas Hallès part à travers l'œuvre de Benjamin Britten, dont à mon avis il s'inspire, rejoint d'une certaine façon, la comédie musicale, le Powder Face, est une comédie musicale pas écrite dans les années 20 ou 30, mais avec des échos quand même assez évidents, il me semble, à cette musique-là, et à cet humour-là, et à cet esprit très vif là, de comédie musicale. J'imagine un petit peu ce livre-là comme une comédie musicale avec tout le mauvais goût que ça peut comporter aussi.
Merci Pierre Sange.
Merci à vous.
C'était Pierre Sange qui nous présentait Ahab, séquelle, à paraître aux éditions Verticales. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Juan Richard Dufour.